moi je suis André Lumbushimai, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. De plus en plus de banques s'installent en RDC et proposent à la population plusieurs services, notamment des crédits bancaires pour ceux qui font le commerce, des crédits mobiliers et immobiliers, des crédits automobiles, des prêts, des avances sur salaire pour les travailleurs des différents secteurs. Ces services sont souvent offerts selon les modalités et les conditions posées par les banques et acceptées par les clients. Plus d'un observateur salue ces initiatives qui peuvent faciliter aux clients des banques de se procurer certains biens et résoudre d'autres besoins. Quel peut être pour vous l'impact de tous ces services sur l'amélioration des conditions de vie de la population et la lutte contre la pauvreté? Nous en parlons avec le professeur André Moloto, analyste économique et ancien directeur général de la Banque des Crédits Agricoles. Titi Poutou, Nadine Foula, Dieudonné Nyangassa sont à la réalisation de ces magazines présentés par Pierrot et Lameji sous la supervision de Ben Kabamba 081-890-4339. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission. Bienvenue à tous.
À partir du lundi 2 septembre, la grille des programmes de Radio Okapi connaîtra quelques ajustements les après-midi. Découverte et rallongée d'une heure, l'antenne soir débute une heure plus tôt. Retrouvez les thématiques femmes, jeunes, enfants, santé et sur la vie quotidienne. Les infos culturelles, l'extrait zigzag, la chronique totale musique, les réponses à vos questions et de la musique entre 13h et 16h, heure de Kinshasa. La chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi, les infos du site web intègrent désormais l'antenne soir. Radio Okapi, encore plus près de vous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Prof André Moloto, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de Parole aux auditeurs Radio Capi. Avant d'aller plus loin avec les auditeurs, hein, en quelques lignes, comment peut-on permettre aux auditeurs de comprendre ce que ça veut dire un crédit bancaire en quelques lignes?
Eh bien, un crédit bancaire, c'est tout simplement, il faut partir de... du rôle de banque. Hein. Les banques ont pour mission de protéger l'épargne et de distribuer les crédits, c'est-à-dire utiliser l'épargne créée par clients, certains clients, pour en accorder à d'autres qui sont dans le besoin d'être financés. C'est en fait ça.
Et quand on regarde aujourd'hui, il y a des banques qui s'installent de plus en plus en RDC, on en avait à Kinshasa, mais qui ouvrent aussi des succursales à travers le pays. Et on voit aujourd'hui des banques qui proposent aux fonctionnaires, aux travailleurs, par exemple, des avances sur salaire, des prêts et tout cela. Est-ce qu'on peut avoir une corrélation aujourd'hui entre tous ces services que les banques offrent, tous ces différents crédits, avec l'amélioration des conditions de vie des gens, la lutte contre la pauvreté? Peut-on avoir une corrélation entre les deux?
Oui. Je peut-être vous direz qu'il y a une corrélation entre cela et la lutte contre la pauvreté. Pour bien lutter contre la pauvreté, il faut créer l'emploi. L'emploi qui est un moyen de lutte contre la pauvreté. Ce n'est pas la distribution du crédit. Bon. Pour créer l'emploi, il faut investir. Donc, le bon crédit qui lutte directement contre la pauvreté, c'est le crédit à l'investissement. Dans notre pays, il y a très peu d'organismes, il n'y en a pas du tout, hormis peut-être le SCI, qui octroie des crédits pour l'investissement. Alors, le peu de crédit qu'on donne aux employés, c'est le crédit à la consommation. Et encore, à qui on donne? Vous avez dit à certains employés, mais il y a combien de gens qui sont dans les secteurs formels? En RDC, sur une population de, disons, de 70 millions, il n'y a que peut-être 1 million de gens qui sont dans les entreprises, dans le secteur formel. Tout le reste est dans l'informel. Donc, je n'y crois pas, quoi.
Mais vous avez vraiment évoqué ce qui est important, le crédit à l'investissement qui peut vraiment lutter contre la pauvreté, mais on ne voit pas un investissement dans ce sens, en fait, en dehors des pays, comme vous l'avez dit. Mais pourquoi, comment expliquer ce fait qu'on ne puisse pas avoir des organismes, même de banques qui travaillent dans ces crédits à l'investissement, qu'on ne sent pas vraiment un intérêt à cela?
Non, on en a eu dans le passé. La banque que j'ai eu le plaisir de diriger, c'est une banque de développement. Mm-hmm. Il y a eu la Sofidé. Mais tout cela, suite à la crise de la dette qu'a connue notre pays, vous savez maintenant que ce n'est qu'on vient de, presque de rapporter. Moi, je n'appelle pas ça annuler, d'annuler une grosse partie de notre dette, il n'y a pas longtemps. Mais c'est à la suite de ça que, quelle politique plutôt a été suivie? L'État intervenait dans ce secteur. Comme dans beaucoup de secteurs sous-développés, l'État avait créé des banques publiques pour financer les secteurs jugés prioritaires comme l'agriculture. Pour l'alimentation de sa population. Il y avait la BCA. Il y avait une banque spécialisée au logement. Il y avait la CNCI qui a financé le logement de Salongo et tout ça. C'était une banque qui existait, la CNCI. Il y avait une banque spécialisée pour l'industrie. Il y avait la Sofidé. La FCI n'est pas une banque à proprement parler. Donc, l'État avait fait ça, mais suite à la crise de la dette, il a dû conclure un programme d'ajustement structurel avec le FMI et la Banque mondiale. Mais ceux-là, ces deux institutions ont exigé la disparition de toutes ces institutions-là. Ils ont voulu libéraliser le secteur, et puis, à la suite de ça, toutes les histoires ont été libérées, comme beaucoup d'entreprises publiques et tout ça. Tout ça, en fait, le résultat de ça.
Voilà, on vous garde.
Et maintenant, ça pose des gros problèmes. Il n'y a pas. Vous voyez, moi, je suis heureux de constater que. Le gouvernement Matata constate ça, il veut relancer la Sofidé, il veut relancer la Banque de Crédit Agricole, et c'est justement parce qu'il y a ce besoin-là de lutter contre la pauvreté. Les banques commerciales ne peuvent pas lutter contre la pauvreté, tout simplement parce que ils ne peuvent donner que des crédits à très court terme.
Voilà. On vous garde en ligne, professeur André Moloto. On a aussi des petits soucis avec votre ligne téléphonique, mais ça va aller quand même. Le temps que nous puissions écouter les auditeurs, nous avons maître Francis ici à Kinshasa, Merdi Alikassi. Nous nous penchons avec eux sur les différents services qu'offrent les banques commerciales. Comme l'a dit notre invité tout à l'heure, il y a des crédits bancaires qui sont offerts pour de multiples raisons, des avances sur salaire, des prêts pour certaines catégories des clients de ces banques. Et c'est que ça peut, comment cela peut-il contribuer à la lutte contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie de la population? 081 890 4339.
Parole aux auditeurs.
Maître Francis, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous avez suivi notre problématique et quel est votre point de vue?
Oui, d'abord, partant de ce que l'invité vient de dire, j'aimerais signaler à titre d'information que le secteur bancaire est régi par la loi numéro 002/2002 du 2 février 2002 portant dispositions applicables aux coopératives d'épargne et crédit. Si je lis pour vous l'article premier, au sens de la présente loi, les coopératives d'épargne et crédit sont tous les groupements de personnes à capital variable dotés de la personnalité morale et fondés sur le principe d'union, de solidarité et d'entraide mutuelle ayant principalement pour objet de collecter l'épargne de ses membres et de leur consentir du crédit. Donc, l'article premier regroupe un peu donc tout ce que nous allons dire tout au long de cette émission concernant le rôle. Par rapport à tout ce que l'invité vient de dire, je crois qu'il a raison, mais il y a un problème qui guette vraiment les secteurs bancaires. Collecter les fonds et consentir des crédits. Pour collecter les fonds, c'est tout à fait normal et facile. Mais consentir des crédits, il y a un aspect négatif là-dessus, c'est la spéculation. Je l'ai dit en connaissance des causes. Si les banques prêtent, nous savons que ce n'est pas un prêt gratuit, c'est avec un intérêt, je le sais très bien, vous le savez aussi très bien, mais normalement cet intérêt ne doit pas être exagéré. C'est ça maintenant ce qui fait à ce que les banques, en lieu et place d'avoir un aspect positif, en lieu et place de contribuer à financer un secteur précis comme l'agriculture, l'élevage ou la pêche, mais les banques, on dirait que ça ne font pas, on dirait que les banques ne font pas, n'accomplissent pas réellement leur travail. Donc, la seule proposition que j'ai, c'est de mettre fin au niveau de la spéculation. Et pour terminer, j'aimerais poser plus ou moins deux petites questions à l'invité.
Oui.
J'ai devant moi la loi en son article 14, chapitre D, qui dispose les coopératives d'épargne et crédit doivent, avant d'exercer leurs activités sur le territoire national de la République démocratique du Congo, être agréées préalablement par la Banque centrale. La première préoccupation est celle de savoir, nous avions suivi par la radio Capi, qu'il y a une banque qui fonctionnait dans la clandestinité. Alors qu'ici, l'article 14 de la loi nous dit qu'avant l'agrément, il faut d'abord passer par la Banque centrale. Donc, que dit la loi bancaire par rapport à cette situation? Est-ce que c'est une escroquerie? Est-ce que, donc, j'aimerais savoir un peu là-dessus. Et l'article 15 nous renforce encore l'idée en disant que la demande d'agrément est introduite à la Banque centrale. Mais nous aurions été étonnés, stupéfaits d'entendre que la Banque centrale a sanctionné une banque. Donc, je ne sais pas si c'est l'anomie ou quoi. Et la deuxième question, c'est basé sur l'article 3 de la même loi, sur, voulais-je dire, l'article 3, l'idée de l'article 3, on dit la présente loi s'applique aux coopératives d'épargne et crédit sur les territoires nationaux. Mais pourquoi certaines banques dérogent à la loi? C'est ça un peu la question que j'ai voulu poser à l'invité. Merci pour l'occasion, je dis, et je vous remercie.
Merci, Maître Francis. Au-delà de deux questions que vous avez posées à notre invité, pour savoir c'est comment, quand il y a une banque qui fonctionne en clandestinité sans l'autorisation de la Banque centrale, on peut dire que c'est quoi? C'est une escroquerie? Comment cela peut être qualifié par rapport à la loi? Et vous demandez aussi pourquoi il y a des banques qui dérogent à n'est-ce pas, à la recommandation, à ce que la loi prévoit, qu'ils puissent s'installer sur l'ensemble du territoire national. Mais vous avez dit que le problème aujourd'hui qui vous inquiète, c'est la spéculation au niveau de banques, que ce soit pour les taux de remboursement des crédits, les taux d'intérêt. Vous pensez qu'on spécule beaucoup. L'invité pourra nous dire comment on fixe ces taux-là quand quelqu'un va pour solliciter un crédit. Merci beaucoup, Maître Francis. Nous allons à Likasio Katanga. Merdi, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les auditeurs. C'est vraiment un bonheur pour moi de participer pour la première fois à cette émission. C'est vraiment un vœu que j'ai toujours émis en moi et c'est vraiment un plaisir pour moi. Bonjour à tout le monde.
Merci.
La participation est dans le sens de dire qu'il n'est pas mauvais de prendre de crédit, mais il faut plutôt prendre de crédit en ayant déjà quelque chose, en ayant le moyen de rembourser ce crédit-là. Et la situation économique de notre pays, en tout cas, dire que le crédit, c'est vraiment quelque chose de bien pour nous, je pense que ce serait qu'un cercle vicieux, puisque les autres seront capables, les autres sont bien évidemment capables de le prendre, et quand la majorité de la population est pauvre, ce crédit risque d'emmener les gens, les pauvres, à une pauvreté vraiment très exagérée. Vous voyez, quand quelqu'un prend une dette, et quand le climat d'affaires est bon, et d'abord dans le cadre privé et personnel, quelqu'un peut prendre pour à agir, mais quand cette personne est déjà pauvre, vous allez voir que les dettes d'abord ne sont pas remboursables gratuitement, il y a des intérêts qui suivent et tout ça. Alors, ma proposition serait d'abord au gouvernement d'aménager d'abord le climat d'affaires, d'aménager d'abord le monde d'emploi. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de bon salaire, et c'est vraiment impossible que ce système-là tourne bien dans notre pays. C'est vraiment quelque chose de bien, mais il faut d'abord commencer par le préalable. Le préalable, c'est d'améliorer d'abord le climat d'affaires, c'est de donner d'abord l'emploi à une grande partie de la population. Alors tout le monde peut faire. En Europe, ça marche bien. Pourquoi ? Puisque quelqu'un sait qu'il travaille avec son salaire, il peut prendre un crédit et remettre, il est sûr au moins de ce travail-là. Mais voilà comment ça se passe chez nous ici au Congo. Nous sommes dans des travails où le travail ne rassure pas. Quelqu'un est obligé de travailler et en même temps avoir certaines histoires à côté. Vous voyez vraiment que déjà dans cette manière-là, ça ne peut pas vraiment réduire sensiblement la pauvreté, comme l'a dit le professeur là au plateau. Là. C'est-à-dire que le dette ne peut pas pousser au développement quand les gens ont déjà un fondement de pauvreté, quand les gens sont faibles déjà financièrement. En tout cas, je ne vois pas comment est-ce que les dettes peuvent emmener le développement. Il faut d'abord que la grande partie de la population soit riche. Il faut vraiment, vraiment que le gouvernement s'attelle sur le point de l'emploi. En tout cas, c'est vraiment l'unique domaine qui peut, bien évidemment, nous emmener au développement et un développement durable. C'est ça le problème avec notre gouvernement. Il y a des histoires qui se font, apparemment, qui se font pour poursuivre un développement, mais en réalité, ce ne sont pas des développements durables. Qu'ils essaient un peu de voir vraiment quelque chose qui peut vraiment nous faire asseoir sur une stabilité un peu durable. C'est vraiment ça ma proposition. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Merdi. C'est aussi un réel plaisir pour nous de vous avoir eu dans cette émission à partir de Likassi dans la province de Katanga. C'est votre première intervention. Nous en sommes très 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 fiers. Et vous pensez qu'on ne peut pas, avec des crédits qu'on octroie aux employés, avoir les moyens de combattre contre la pauvreté ni améliorer les conditions de vie des gens, parce que la grande partie de personnes ils n'ont pas de l'emploi, il n'y a pas un emploi, et ceux qui ont de l'emploi, ça peine un emploi précaire, et dans ces conditions, s'ils vont s'endetter au niveau des banques, ça ne peut pas résoudre leurs problèmes. Vous souhaitez qu'on puisse améliorer le climat des affaires et qu'on puisse créer des emplois. Merci beaucoup, Merdi. Franck, vous nous appelez de Vienne en Autriche. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour, prof qui est l'invité de l'émission, et à tous les compatriotes congolais avec qui on s'échange sur vos ondes.
Nous dégageons ensemble les pistes des solutions. Vous avez suivi notre invité et les amis qui pensent que les crédits bancaires tels qu'ils nous les octroyés aujourd'hui par les banques, c'est un crédit de consommation qui ne peut pas aider ceux qui le perçoivent, n'est-ce pas, à pouvoir lutter contre la pauvreté ni améliorer les conditions de vie. Et notre invité a beaucoup insisté sur la création des banques d'investissement au niveau du pouvoir public. Votre intervention.
Merci beaucoup pour le choix de ce sujet. L'initiative en soi est déjà louable et recommandable, parce que même ici dans le monde occidental, s'il y a des initiatives du développement, c'est aussi à base de certaines pratiques de prêts bancaires à rembourser après X durée. Seulement, nous espérons que chez nous, notre État a la pleine maîtrise de cette filière bancaire. C'est-à-dire que l'État congolais doit d'abord rassurer ses opérateurs bancaires qu'ils peuvent bien travailler chez nous sans beaucoup de tracasseries venant de part et d'autre. Et aussi, nous espérons que l'État congolais a la maîtrise des proportions des taux d'intérêt entre les montants alloués au crédit et les taux d'intérêt à rembourser. Et comme le compatriote qui venait d'intervenir avant moi vient de le thématiser, un autre facteur déterminant, c'est surtout l'accès facile aux emplois. Donc, il faut que les marchés d'emploi et les marchés des embauches puissent être vraiment faciles pour la plupart des citoyens congolais. Et sans cet accès facile aux emplois avec des rémunérations respectables et proportionnelles au coût de la vie, il ne sera presque pas pratique à ces succursales bancaires de bien opérer. Mmh. Évidemment, il y a encore un certain nombre de critères qu'on devrait remplir de part et d'autre pour que cela soit vraiment bénéfique et pour la population et pour ces opérations bancaires, mmh. ces opérateurs bancaires. Parce que nous ne devons pas oublier que aucune banque ne travaille pour perdre. Les banques travaillent pour gagner, mais là, ce sont des tactiques de gagnant-gagnant. Les citoyens qui ont besoin d'un crédit cherchent à obtenir, à réaliser ses objectifs. Il va s'adresser à une banque et la banque aussi sait comment elle va calculer ses intérêts après avoir alloué des crédits. Mais ça peut profiter si, de part et d'autre, il y a un certain nombre de critères mis en place.
Voilà, on a perdu.
Merci beaucoup pour.
Voilà. Ok, Franck est encore là. Merci beaucoup, Franck. Malgré qu'il y ait à la fin de votre intervention, la ligne semblait poser des problèmes. Nous vous disons merci pour votre intervention. Vous pensez qu'il faut d'abord créer de l'emploi et savoir comment sont calculés les différents taux quand on accorde les crédits aux clients. Ça peut permettre à ce que les gens puissent avoir un accès à certains services. Mais quand il y a pas création d'emplois et amélioration des climats des affaires, ça ne serait pas possible hein, que les banques contribuent à la réduction de la pauvreté. Merci beaucoup, Franck. Nous revenons ici dans la capitale pour accorder la parole à notre invité, professeur André Moloto. Vous avez suivi nos auditeurs. Maître Francis de Kinshasa, qui lui aussi a beaucoup insisté sur la spéculation au niveau des différents taux qui sont appliqués par les banques. Il voudrait savoir comment on parvient à déterminer le pourcentage, les taux, tout ce qui doit être fait au niveau de la banque, mais il s'inquiétait aussi par rapport aux informations faisant état d'une banque qui fonctionnait clandestinement, qui a été fermée, et quelles sont les sanctions si une banque fonctionne sans l'autorisation de la banque centrale. On peut regrouper ces interventions. Notre ami Delicatier est revenu aussi sur le problème de l'amélioration du climat des affaires, la création des emplois, et Franck y a beaucoup insisté aussi sur le climat des affaires, l'emploi, mais aussi qu'on ait le contrôle de tous les taux qui sont proposés par les banques. Voilà, d'une manière ramassée autant les préoccupations des auditeurs, professeur André Moloto.
Bon, je vais commencer par la fixation de taux. Allô?
Oui, on vous écoute, professeur.
Oui, bon, c'est la banque centrale qui décide du taux directeur, qui donne une indication aux banques à partir du taux directeur.
Mmh.
Donne un taux directeur et chaque banque a une stratégie. Il fixe librement le taux de crédit qu'il emploie et vous êtes libre d'adhérer ou pas.
Mmh.
C'est en fait ça. Hein, c'est la banque centrale qui contrôle ça. Allô?
Allô, on vous suit, professeur.
Ok. Bon, alors là, je crois que je suis clair. C'est mm-hmm. la banque centrale.
Oui.
Et les banques ne font pas n'importe quoi. Si la banque, je prends un exemple, le taux directeur fixé par la banque centrale doit être numérateur pour les banques. Il ne faut pas qu'ils perdent. Bon, là, ils mettent quelques pourcentages en dessus. Je prends un exemple pour être concret. Si le taux d'inflation est de 7%, la banque centrale peut dire, bon, le taux directeur est de 10%.
Mm-hmm.
Et sur base de ça, une banque peut dire, moi, j'octroie un crédit, je droit de crédit à 10%. D'autres peuvent dire à 12%. Il y en a qui vont jusqu'à 15. Bon, là, vous voyez, c'est vous qui choisissez. C'est ça la liberté, c'est ça le libéralisme. Vous choisissez la banque ou qui peut vous octroyer un crédit à 10%, à 12%, à 15%, c'est au choix d'un chacun. Bon, et je suis content que tout le monde maintenant est d'accord avec moi, c'est que la façon de lutter contre la pauvreté, c'est à travers le crédit à l'investissement. Ça, c'est vrai. Et la rémunération de l'emploi. Mais là aussi, ça ne dépend pas de l'employeur. Ça, nous sommes dans le libéralisme, on fixe le salaire en fonction de la productivité du travail. C'est en fonction de ça qu'on fixe le salaire. Or, chez nous, la productivité du travail est très bas.
Mmh.
C'est pour ça que le salaire s'en bat. Pourquoi c'est bas? Parce que les gens sont très peu formés. Très peu formés. Il y a beaucoup de journaliers, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas étudié, il y a des tas de problèmes à ce niveau-là de formation qui font que les gens sont très peu productifs. Alors bon, les employeurs ont un argument. Pourquoi je vais payer quelqu'un 100 dollars alors qu'il me rapporte très peu au point de vue productif du travail? Bon, qu'est-ce que vous pouvez opposer à ça? Voilà. Moi, ce sont les deux compléments de formation que j'ai compris et que je complète.
Mais il y a un autre ami, Maître Francis, qui s'inquiétait par rapport à la loi. Il a évoqué l'article 3, un dispositif qui disait qu'il faudrait, quand une banque s'installe, elle doit aussi travailler sur l'étendue du territoire national. Il s'inquiète, quand vous regardez, c'est plus la ville de Kinshasa où les banques s'installent, mais à l'intérieur, ça va être peut-être le processus de bancarisation de la paie des fonctionnaires agents de l'État qui a permis aujourd'hui aux banques de pouvoir s'installer en province et moyennant aussi, je crois aussi avec beaucoup de difficultés pour permettre aux gens d'avoir accès à leurs services. Mais est-ce que les banques d'investissement comme la banque des crédits agricoles par exemple, comme Sofidé, est-ce que ces banques d'investissement, ces banques publiques peuvent-ils avoir la capacité de traiter jusqu'à à l'arrière-pays, vous qui avez géré ça, professeur?
Oui, mais bon, d'abord je vais dire l'État, aucune loi n'oblige les banques à s'implanter à l'extérieur. Aucune loi. Enfin, que je sache, à moins que je m'abuse. Hein. Mais ce que je sais, les banques, pourquoi ils s'installent à Kinshasa? Mais parce que c'est la ville où il y a un pouvoir d'achat. Pourquoi voulez-vous qu'ils s'installent à Lissala où les gens n'ont pas de pouvoir d'achat? Ils s'installent au Katanga pour des raisons, parce que c'est la saison des mines, il y a l'exploitation minière, et que, bon, on a maintenant là à peu près 500 000 tonnes de cuivre produites. Bon, c'est supposé que les gens ont un pouvoir d'achat aussi, à Lubumbashi, au Katanga, à Likasi, mais ils n'iront pas à Manono. Ils n'iront pas, parce que bon, là, les gens n'ont pas d'argent. Comment ils peuvent épargner? Donc, il faut que les choses soient claires là-dessus.
Oui.
Ce ne sont pas les enfants de cœur. Ils vont là où ils peuvent tirer un profit.
Voilà.
Merci. Voilà, c'est simple. Et l'avocat, que je salue au passage, dit aussi qu'une banque avait fonctionner
sans l'autorisation de la Banque centrale, oui.
Que, bon, c'est impossible. Parce que il y a une direction de contrôle à la Banque centrale. Moi, j'en recevais presque tous les jours, presque tous les 15 jours, quand j'ai dirigé la Banque de Crédit Agricole. C'est impossible de sanctionner clandestinement. À moins que je m'abuse, à moins que les choses aient changé, ce que je ne crois pas.
Ok, voilà. Merci beaucoup, professeur Théophile Takananga au Kasaï occidental, Alphonse à Arou, en province orientale, 081-890-4339.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages Vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h-15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs.
Théophile, vous nous appelez des Kananga au Kasaï Occidental, bonjour.
Bonjour Pierrot et la mairie, bonjour à de la radio.
Mais on a des petits soucis avec votre ligne, hein. Si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu pendant que vous intervenez, parce que là on vous suit difficilement. On vous écoute Théophile.
Merci beaucoup. Mon intervention se base sur ce que je considère comme étant une injustice, un développement de l'espèce. Vous avez entendu ce que venait de dire le professeur à propos de l'intervention des banques de crédit à l'intérieur de notre pays. Si j'ai parlé de développement de l'espèce, c'est pas que je considère le crédit.
On a des petits soucis vraiment des lignes téléphoniques, hein, avec Théophile, ça n'a pas été possible de le suivre jusqu'à la fin, alors qu'il est en train de s'inquiéter par rapport à la distribution géographique des banques. Il trouve que le fait qu'on ait beaucoup de banques à Kinshasa et qu'on n'ait pas assez, les banques ne s'installent pas à l'intérieur, cela risque de cautionner, comme l'a dit, un développement à deux vitesses par rapport à ceux qui sont en milieu urbain ou à Kinshasa et ceux qui sont en milieu rural ou bien à l'arrière-pays. Dommage, Théophile, qu'on ne puisse pas être en mesure d'aller plus loin avec vous compte tenu des petites difficultés avec la ligne téléphonique. Alphonse, vous êtes à Arou, en province orientale. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour l'invité, bonjour à tous les auditeurs. En tout cas, je suis très ravi de discuter du jour. Je vais seulement donner des témoignages et puis je vais poser aussi une question à l'invité.
Oui.
Pierrot, nous avons à Arou, prenons Arou, Ariwara, Ndokolo. Vraiment, nous sommes restés avec de très mauvais souvenirs des microfinances, pour ne pas parler des banques. Les microfinances nous ont laissé vraiment de très mauvais souvenirs. On peut prendre plus particulièrement les cas des crédits congolais pour la reconstruction. On peut prendre les cas des baraques à presse. Et autres. Vraiment, quand on voit les membres de ces microfinances-là, ça fait peur, ça fait des stress, ça fait des psychoses, ça ne va pas. C'est comme ça que nous, ici, à partir d'Aru, Ariwara, Imbokolo, on ne veut même pas sentir qu'une banque, surtout des microfinances, vienne s'installer, parce que ça blesse au cœur. Pour revenir à ceux qui m'ont précédé, je dirais que les banques ne développe presque pas. Parce que vous allez prendre quelque chose au niveau de ces banques-là avec un bénéfice quelconque, vous utilisez, vous trouverez que vous remboursez, vous ramenez presque la même chose. En fait, vous marquez presque le même pas sur place. Alors, ce serait mieux que chacun, surtout dans les villages, dans la campagne, que chacun se développe, ou encore que ceux-là qui s'occupent des banques ou des microfinances viennent orienter quand même à travers l'agriculture, dire si vous voulez vous développer, faites ceci, faites cela, cultivez ceci, nous viendrons acheter au lieu que nous venions vous donner de l'argent comme dans le cas des crédits agricoles. La question que je pose est celle de savoir, par exemple, à Ariwara, même à Ngokolo, il y a eu de l'argent. Les paysans, les agriculteurs, les pauvres paysans là, les fermiers, ont perdu de l'argent, de 4 000, de 5 000 dollars et même plus. De ces banques, ce sont les banques là qui, on dirait, ont volé entre guillemets. Hein. Parce que ceux-là qui étaient dans ces banques-là, dans ces microfinances-là, se sont retirés la nuit. On ne sait même pas. Donc, la veille, donc la journée, ils étaient là, mais on se réveille le matin, personne n'est là et tout le monde a pris avec cet argent-là. Ma question est de savoir maintenant à qui recourir pour des cas pareils. Les cas de ces serres qui étaient déjà passés, je crois, les dossiers déjà fermés, des cas de Baraka Press. Comment et à qui recourir? Parce que ça fait des larmes quand on pense à ça vraiment. Comme chez nous ici, on s'occupe que de tabac. Alors, quelqu'un qui fait son tabac toute l'année, il a 200 dollars, il a 500 dollars, 1000 dollars, et le perdre d'un coup, vraiment, ça fait mal. Il y a des gens même qui se sont pendus, d'autres sont devenus malades.
Mm-hmm.
Donc, moi, je voudrais demander si on peut avoir des solutions par rapport à cette situation. En bref, je dirais que vraiment, l'impact de ces banques ne se fait pas. Au contraire, ça mène de douleur et des malheurs vraiment dans notre contrée ici. Merci beaucoup, Pierrot.
Merci, Alphonse. Vous êtes très inquiet. Vous, d'ailleurs, vous dites que la population, que ce soit à Arou, à Riwara ou bien à Imbokolo, ne préfère pas encore voir les institutions de microfinance. Vous avez des mauvais souvenirs des institutions qui ont disparu, des agents qui ont disparu le matin avec l'argent qui était placé par les clients. Et ils ne souhaitent même plus encore revoir les institutions de microfinance venir, que ce soit à Arou, à Riwara ou bien à Imbokolo. Mais vous avez posé la question à notre invité de savoir quand Antonin est escroqué ainsi, qu'est-ce qu'il faut faire? Ces gens qui ont disparu avec leur entreprise et les clients sont restés là, ils n'ont plus d'argent, il y en a qui se sont pendus, des situations très très malheureuses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Auprès de qui faudrait-il aller toquer pour avoir une solution? Merci beaucoup, Alphonse. Antoine, vous êtes en Boujimaï au Kassai Oriental. Bonjour, Antoine.
Bonjour, monsieur le journaliste. Moi, c'est Antoine Ngalula Watambatamba depuis la ville de Mbujimayi.
Mm.
La question que je veux poser à notre invité, quel est le rôle de la BIRD, Banque Internationale de Développement? La deuxième question, quelles sont les propositions qui peuvent pousser les pays en voie de développement, tels que les taux de natalité élevés, les revenus annuels faibles, la mortalité infantile élevé, exode rural peu important, alimentation déficitaire en protéines. C'est ça ma préoccupation, mais c'est Antoine Ngalula.
Oui, Antoine, s'il vous plaît, Antoine, si vous êtes encore là, parce que la deuxième préoccupation a suivi, vous avez demandé à notre invité les rôles de la Banque internationale de développement, ce que vous avez demandé, mais vous voulez aussi savoir par rapport à ce que les pays doivent faire, mais là, on n'a pas compris vraiment votre préoccupation, oui.
Je répète.
Mm-hmm.
Quelles sont les propositions qui peuvent pousser les pays en voie de développement?
Ah oui, voilà, on a suivi, vous avez dit ce qu'il faut faire pour que les pays en voie de développement puissent améliorer, que ce soit la situation de mortalité, la pauvreté, les maladies, la malnutrition. Merci beaucoup, Antoine. Là, on a suivi. Je rappelle encore le numéro d'appel pour intervenir en direct, 0-81-890-43-39. Professeur, vous êtes avec nous. Vous avez suivi nos auditeurs, deux auditeurs, notre ami d'Arou, ce qu'ils ont vécu avec les institutions de microfinance qui ont disparu avec l'épargne des gens. La population est tellement déçue qu'ils ne voudraient plus encore entendre parler des banques ni des institutions de microfinance. Les gens ont peur. On se rappelle aussi par rapport à la situation qui avait touché à la caisse d'épargne du Congo, Kadeko, qui beaucoup de gens, quand on leur dit d'épargner, ils ne veulent plus épargner à cause de tout ça. Et puis, ce que notre ami demande à partir de Mbujimayi, c'est presque ce que nous avons défini depuis le début de l'émission par rapport à la politique sur l'emploi, la lutte contre la pauvreté, tout cela. Votre intervention par rapport à ces préoccupations, professeur? Je
commence par le problème de disparition de... qu'est-ce que je peux dire de... l'épargne,
oui.
Hein, des clients. Il faudrait qu'ils fassent attention que ce soit l'institution de microfinance, que ce soit une banque, il faut que cette institution, quelle qu'elle soit, soit agréée par la banque centrale.
Oui.
Du moment qu'il y a l'agrément de la banque centrale, ceux qui épargnent peuvent être plus ou moins certains que la banque centrale, lors de la liquidation de l'institution, va restituer leur épargne, pas à 100%, mais à 80%.
Mm-hmm.
Alors, pour cela, la Banque centrale demande la garantie à ceux qui investissent dans les banques. Je crois qu'au stade actuel, pour ouvrir une banque en RDC, il faudrait quand même que le capital propre, les fonds propres, soient de l'ordre de 5 millions.
Mm-hmm.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a très peu de banques congolaises. Il n'y en a même pas.
Oui.
Voilà. Ça, c'est une première garantie. Et bien, si l'institution de microfinance ou même la banque n'a pas cette garantie, cet agrément de la banque centrale, il ne faut pas aller là-bas. Mmh. Il ne faut pas économiser dans cette banque. C'est tout.
Mmh.
Hein, ça, c'est au niveau de notre ami de Haro, que je salue.
Oui.
Concernant notre ami de Mbujimaï, c'est le problème du développement. Il donne les caractéristiques du sous-développement, mortalité infantile, la faim. On peut définir le développement, il faut changer ça.
Mm-hmm.
Il faut, c'est un processus de transformation.
Oui.
Il faut changer.
Mm-hmm.
Et pour qu'il y ait ce changement, il faut que ces changements soient financés.
Oui.
Bon, comme chez nous, il n'y a pas d'épargne. Ben, notre
On a aussi, on a des petits, professeur, on a des petits soucis avec votre ligne téléphonique là. Oui, oui,
mais allô,
là, ça va, ça va. Oui,
ça va?
Là, c'est bon, on peut continuer.
Oui, mais... comme notre revenu national ne peut pas couvrir ça. Et la partie, le budget ponctionne pour faire des dépenses de l'éducation, bon, alors on fait un peu l'Europe mondiale à l'extérieur qui donne des fonds, qui soutient notre budget, au FMI qui nous donne un peu de devises pour faire des importations. C'est ça leur rôle.
Voilà. Hein? Oui, professeur, vous avez évoqué tout à l'heure l'absence des Congolais dans les secteur bancaire, on l'a dit, sur une vingtaine de banques installées en RDC, on ne voit pas un Congolais qui est dans ces secteurs-là, ça aussi c'est un problème très sérieux. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour qu'on puisse avoir des Congolais dans les secteurs bancaires? Faudrait-il qu'ils puissent demander des capitaux à l'extérieur? Faudrait-il qu'ils soient financés par l'État congolais? Comment on peut aider les nationaux à investir dans les secteurs bancaires comme dans notre cas par exemple? Oui, professeur André Moloto, vous êtes avec nous? Je crois là, on a des petits soucis aujourd'hui avec nos lignes téléphoniques. Le temps, peut-être que la réalisation voit comment récupérer les professeurs par rapport à cette question d'absence des Congolais dans les secteurs bancaires. Nous allons à Bounia. Nous avons Bienvenue qui est sur les antennes. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, monsieur le journaliste. D'accord de nouveau de m'avoir associé à cette émission. C'est Tibassi Matouba, bienvenue de Bounia.
Oui, on vous écoute, bienvenue.
Merci. Par rapport au sujet du jour, j'aimerais dire ce qui suit, monsieur le journaliste. L'aspect du crédit bancaire, c'est un élément tellement important, c'est un élément tellement non négligeable.
Oui.
Car il y a toujours une question que je me pose. Si quelqu'un se dirige à la BAC, c'est pour juste, disons, si quelqu'un se dirige à la BAC pour s'endetter ou pour demander des crédits, c'est suite à une insuffisance, c'est suite à une insuffisance financière.
Mm-hmm.
Donc c'est là que quelqu'un n'ira pas à la BAC. C'est comme quelqu'un qui n'est pas malade, ne peut pas aller voir le médecin.
Oui.
Alors, c'est pourquoi nous allons juste demander au gouvernement, normalement le gouvernement pourrait améliorer l'aspect social de la population congolaise, pour juste éviter des conséquences du non-remboursement des crédits, la conséquence de cette insuffisance financière que la population congolaise est en train de subir. Quand je disais que l'aspect du crédit bancaire, c'est un aspect qui est vraiment important, c'est parce que dans le temps, nous avons remarqué, après la population congolaise, la population de Bounia ont construit des grands bâtiments, des bâtiments de matériaux, juste pour suite à ces crédits qui endettés à la banque. La raison pour laquelle je dis c'est un aspect tellement important. Bon, comme nous avons un problème avec la ligne de notre invité, mais toutefois j'avais une question à poser à notre invité.
Allez-y, on est en train de se battre. Peut-être que tout à l'heure là, on pourra le revoir de nouveau sur les antennes.
Merci beaucoup. La question serait de savoir que dit la loi en matière du non-remboursement des crédits bancaires. Certainement, il y a des amendes. Alors, je voudrais savoir si ces amendes peuvent se limiter à combien. Voilà, c'est M. Jolie, c'est ma continuité pour l'émission de jeudi.
Merci beaucoup, bienvenue. Vous encouragez d'ailleurs le fait qu'on puisse avoir un crédit de consommation, parce qu'à Bounia, vous avez des gens qui ont construit des grandes maisons grâce au crédit qui leur ont été octroyés par les banques. Et vous pensez qu'il serait mieux que le gouvernement améliore, n'est-ce pas, les conditions sociales de la population, que les gens aient de l'emploi, qu'ils aient accès au crédit bancaire. Ça peut leur permettre d'avoir de maisons comme vous l'avez témoigné à Bounia. Vous avez aussi posé la question à notre invité de savoir les sanctions par rapport à un client qui ne parvient pas à rembourser un crédit lui octroyé par une banque. On va revenir à notre invité si possible. On ne sait pas encore avec sa ligne téléphonique. En attendant, nous avons Auguste qui nous appelle des Tukuit. Je rappelle encore notre sujet. Nous débattons ensemble autour des services que les banques offrent à leurs clients en RDC où les banques s'installent de plus en plus. Ça peut être des crédits bancaires, des crédits automobiles, des crédits immobiliers. Il y en a aussi qui reçoivent des avances sur salaire pour les fonctionnaires, les travailleurs. Il y en a aussi qui reçoivent des prêts. Tout l'ensemble de tout cela, est-ce que ça peut avoir de l'impact sur la lutte contre la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie de la population? Plusieurs personnes pensent que ces crédits de consommation ne peuvent pas résoudre le problème. Il faut plutôt créer de l'emploi. Auguste, vous gardez la ligne. Nous allons vous accorder la parole. 081-890-4339.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Parole aux auditeurs.
Auguste, vous nous appelez des Kikuit dans la province de Bandundu. Bonjour.
Bonjour, Pierrot et la Menji. Je suis Auguste Bendelo, je vous appelle des Kikuit dans la province de Bandundu. Merci, Pierrot, de m'avoir accordé la parole.
Oui.
J'ai entendu mes prédécesseurs. De tout ce qui vient d'être dit. Vous venez même d'évoquer, lorsque, avant que notre invité puisse quitter, vous aviez posé la question de savoir pourquoi les Congolais sont... Vous avez constaté l'absence des Congolais dans des préoccupations, soit des comptes, des cas des banques. Alors, moi, je vois que si les Congolais ne sont pas nombreux, c'est par rapport aux conditions. Il y a des conditions tantôt qui sont un peu dures, c'est pourquoi les Congolais ne sont pas en majorité à ce sujet, mais je voulais poser la question de notre invité, je ne sais pas s'il aura encore la chance de revenir. De tout ce qui vient d'être dit, M. Pirot, les uns et les autres ont posé des questions, et il y a même d'autres qui ont fait des propositions. Et moi, je voulais savoir auprès de notre invité, qu'est-ce qu'il pourra être fait et qu'est-ce qu'il pourra nous dire pour que cette situation puisse s'améliorer et pour que les Congolais puissent aussi, pour que notre pays puisse avoir assez d'argent dans des banques, surtout qui se sont installées nouvellement dans notre pays. C'est ce que j'ai voulu demander, M. Pirot, et la Menji, malheureusement, notre invité.
Oui, mais Auguste, en fait, la préoccupation, c'est que l'invité venait de dire, c'était pas par rapport aux Congolais qui travaillent dans le secteur bancaire, c'est plutôt les Congolais qui n'ont pas des banques. Quand vous regardez sur une vingtaine de banques installées, ces banques, on peut utiliser les termes étrangers, cela veut dire qu'on ne voit pas un Congolais, par exemple, Auguste Bendelo, qui se présente avec son capital de 5 millions de dollars, qui ouvre une banque. C'était ça l'inquiétude. Mais la question était celle de savoir ce qui doit être fait pour permettre aux Congolais d'investir dans les secteurs bancaires. Merci beaucoup, Auguste Bendelo. C'est la question même qui va être posée au prochain auditeur. C'est Séraphin qui nous appelle d'Ouvira. Séraphin, bonjour. Séraphin, bonjour. On vous écoute, Séraphin, mais la question, c'est celle que je venais aussi de poser au professeur tout à l'heure, vous qui vous intéressez au secteur économique, vous êtes en train d'ailleurs de préparer un livre, je crois bien, et sur un livre économique. Et Séraphin, alors, comment on peut amener aujourd'hui les Congolais à investir dans les secteurs bancaires?
Néanmoins, ce que vous avez constaté, parce que les banques commerciales que nous avons aujourd'hui dans notre pays, ce sont des banques majoritairement étrangères. Bon, amener les Congolais, d'abord, il y a quelqu'un qui a soulevé un problème très capital, c'est un problème d'abord du climat des affaires. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, il se pose sur un sérieux problème de climat des affaires. Et ensuite, il y a aussi les problèmes de marché financier qui n'est pas créé par l'État congolais. Parce que les marchés financiers, c'est le lieu de rencontre entre les agents économiques qui ont capacité de financement et a besoin de financement. Mais néanmoins, si aujourd'hui, les peuples congolais avaient l'accès, s'il y avait au moins l'accès des marchés financiers dans notre pays, par l'État, les peuples congolais pouvaient facilement accéder à des crédits et faire l'investissement. Et l'investissement pouvait aller aussi dans la création d'une banque commerciale d'origine nationale. Ça, c'est la première des choses. Mais néanmoins, je félicite parce qu'il y a un économiste, que je salue à passer, Michel Soumé, qui a fait d'ailleurs un message sur Facebook et qui, bien ou mal, on doit créer certaines personnes pour qu'on puisse créer une banque de l'économie congolaise. Et d'ailleurs, j'ai adhéré à cette initiative là, mais j'attends toujours la suite. Mais néanmoins, les gens se posent au niveau d'abord du climat des affaires. Il faudrait que le gouvernement congolais puisse assainir le climat des affaires et créer aussi un marché financier pour permettre aussi aux Congolais d'accéder facilement au crédit.
Mmh. Voilà, merci. Oui, voilà, merci, Séraphin. Assurément, aujourd'hui, la qualité de l'antenne téléphonique nous pose problème. Mais du moins, vous avez dit, le premier problème, c'est l'assainissement du climat des affaires. Et puis aussi, permettre aux Congolais d'avoir accès aux marchés financiers. Ce sont ces deux éléments qui peuvent permettre à ce que les Congolais puissent investir dans le secteur bancaire. Et cela, par ricochet, va permettre à beaucoup d'autres personnes d'avoir accès aux crédits bancaires qui peuvent leur permettre de résoudre le problème qu'ils peuvent avoir. Je crois bien, on va prendre les derniers auditeurs de cette émission, Hubert, qui nous appelle de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Bonjour Hubert.
Oui, bonjour monsieur.
Vous êtes avec nous, vous avez suivi les autres, on termine cette émission, je crois bien, peut-être par vous, le temps qu'on accorde une minute à notre invité pour conclure l'émission. Rapidement, Hubert, votre point de vue, comme on tend déjà vers la fin.
Bon, oui, moi je disais ceci, je disais que normalement, les institutions de microfinance qui sont implantées, installées partout aussi à chez nous, devraient améliorer la vie des bénéficiaires de crédit. Mais ce n'est pas le cas parce que les institutions donnent des crédits sans former les receveurs de crédit. Du fait que ceux-ci ne sont pas formés, ils risquent de prendre des crédits et ne pas les fructifier pour payer les remboursements. Les taux de remboursement aussi sont excessifs et ne sont pas contrôlés par la Banque nationale du Congo. Et ce qui est malheureux est que, avant d'octroyer le crédit aux gens, il y a l'exigence de donner soit en hypothèque les documents de sa maison. Et en cas de faillite, c'est la maison qui part. Alors, c'est la famille.
Voilà autant de problèmes qui
améliorent la vie de cette famille-là. Donc, ça on la trouve de plus en plus.
Ah, oui, à l'appauvrissement. Merci beaucoup, Hubert de Bukavu, d'être intervenu dans cette émission. On accorde la parole à notre invité, je crois, il est là en ligne pour la conclusion. Professeur André Moloto, vous êtes avec nous. Vous avez suivi les uns et les autres. Comme on n'a que deux minutes pour conclure cette émission. Il y a aussi cette question qui était posée par les auditeurs pour savoir pourquoi les Congolais, comment, disons plutôt, faciliter aux Congolais l'accès à l'investissement dans les secteurs bancaires. Au-delà de tout ce qui a été dit, en une minute et demie, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la lutte contre la pauvreté et les crédits dans le secteur bancaire?
Je comprends pourquoi ils ne sont pas dans le secteur bancaire. Évidemment, le climat d'affaires est juste, il faut améliorer le climat d'affaires, mais il y a surtout... Allô?
Oui, on vous écoute, professeur.
Oui, ce plafond, là, minimum de 5 millions de dollars, très peu de Congolais ont ça. Mais alors, il y a quelque chose, quand j'enseigne à mes étudiants de l'économie de développement, là où les nationaux n'arrivent pas, l'État doit intervenir. L'État doit intervenir comment? Il doit suppléer, il doit créer, même en France, le président François Hollande le fait. Il vient de créer un banque d'investissement à capital 100% État. Il n'y a pas de problème à ça. Là où ils ne peuvent pas, l'État doit supplier.
Oui.
Bon, et ça, c'est la seule. Parce que
merci.
Ce ne sont pas les étrangers qui ont imposé le plafond de 5 millions de dollars.
ce sont les Congolais, c'est la Banque centrale.
Mmh, voilà. Ok, merci. Merci beaucoup, professeur André Moloto, d'avoir accepté notre invitation. On termine cette émission en parlant. En tout cas, merci de votre temps, hein, malgré les difficultés avec les lignes téléphoniques. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes notre analyste économique et ancien directeur général de la Banque de Crédit Agricole. Nous disons aussi merci aux auditeurs qui nous ont suivis.
Allô? Allô? Mais ils ne répondent pas?
On se retrouve demain mercredi à 10h03 heure de Kinshasa. Nous allons faire le point sur le financement des travaux de réhabilitation et d'entretien des routes et des dessertes agricoles et autres axes routiers d'intérêt local. L'entretien et la réhabilitation de ces routes posent des fois des problèmes, ce qui conduit souvent les habitants des lieux concernés, les opérateurs économiques, de se plaindre, de se poser des questions sur le Fonds national d'entretien routier qui a en charge le financement de ces travaux. Quelle est la situation des routes et des dessertes agricole dans votre milieu? On se retrouve demain à 10h03 heure de Kinshasa. Merci à Titi Mfutu, Nadine Foula, Dieudonné Nyangasa qui nous ont aidés à produire cette émission supervisée par Ben Kabamba. Vous allez la retrouver ce soir à 20h03 heure de Kinshasa en FM en rediffusion, mais aussi sur www.radiocapi.net. Merci, au revoir à tous.